2013, résultats qui ont donné raison aux prédictions de Peebles. Michel Mayor et Didier Queloz sont eux récompensés pour une découverte plus proche de nous, la première planète.
Radio G, 105 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Du lundi au jeudi dans cette émission, on parle actualité culturelle et locale. Le mardi, vous le savez sans doute déjà, c'est le jour de retrouver nos partenaires. Et aujourd'hui, le deuxième mardi du mois, comme d'habitude depuis longtemps, nous sommes avec le THV, le théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou. Ensemble, nous allons parler de danse et de théâtre. Danse avec Outre Noir, un spectacle qui s'annonce fluide, physique et qui joue sur l'équilibre. Ce sera le 18 octobre et c'est à ne pas rater, vraiment. Théâtre avec La Lune des Pauvres, une pièce où l'on suit deux personnages guidés par la colère ou par la faim et qui vont rencontrer un troisième personnage, l'Espérance. Ce sera le 19 novembre au THV, bien sûr. Voilà le programme de cette oreille curieuse. Derrière le micro, c'est Annelie. À tout de suite. Et pour accueillir le THV, je suis donc avec Amélie. Bonsoir Amélie.
Salut Annie.
Et avec Maud. Bonsoir Maud.
Bonsoir.
Merci à toutes les deux d'être là pour cette nouvelle saison. C'est reparti.
C'est reparti.
Tout va bien au THV?
Ouais, on est en travaux.
Pour changer. Pour changer.
Mais la dernière fois, ça s'était à peine vu, c'était l'été. Et là, le hall est juste impraticable. Donc on a installé un barnum et une caravane sur le parvis.
Non, on n'est pas peur, Annie, c'est vraiment...
Non, c'est hyper super. Sympa. Ouais, c'est vraiment rigolo, parce que bah, le hall est vraiment inaccessible. En fait, tout est en train d'être fait pour que ce soit mieux.
Et ça va durer longtemps comme ça?
Jusqu'en janvier. Donc juste la période où il ne fait pas beau.
Mais voilà. Super.
C'est ça. Mais non, mais on a testé dimanche, c'était la première date et ça fonctionne vraiment bien. Donc okay. Pas de soucis à se faire.
Bon.
C'est juste rigolo.
C'est une raison de plus d'aller au THV.
Voilà, venez voir comment on fait quand on campe.
En plus des spectacles dont on va parler. Mais on va commencer en musique, parce qu'on a des habitudes dans cette émission avec le THV. Et c'est Laila Makkala. Le titre, c'est La vie. Je sais pas le prononcer.
On avait dit qu'on le dirait pas, mais du coup, tu t'es lancée. C'est bien, t'es courageuse.
La vie vinaigre ? La vie vinaigre ?
Voilà.
Quelque non, chose comme ça.
Venez écouter le titre. Enfin, non, même on va l'écouter, ça se trouve, elle le dit. Et elle joue mercredi demain au théâtre. Voilà.
Allez, c'est parti.
La vie vienne capte ses sucrètes soleuses, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vienne capte ses sucrètes soleuses, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La joue pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La joue pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient cap chez sucré soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient cap chez sucré soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La je pas fait pour nos poches. terre bénie. Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parais.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nénon.
Non, pas j'parais.
Mes grands entrées, l'idée pensée, oh.
Non, pas j'parais.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parais.
La vie vient n'écapocher sous clepsonon. Même si la terre, c'est pas votre malheur. La vie vient n'écapocher sous clepsonon. Même si la terre, c'est pas votre malheur. Là, je me pas fait bon, l'empoche malheur. Nous faites pour nous vivre sous la terre bénie. Là, je me pas fait bon, l'empoche malheur. Nous faites pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, je me pas fait bon,
l'empoche malheur.
Mes amis, là, je me pas fait mon nénon.
L'empoche malheur.
Mes grands rentrés, l'idée pensée, oh.
L'empoche malheur.
Mes amis, là, je me pas fait.
Non, pas j'parais.
Mais comment j'ai l'idée pensée, oh.
Non, pas j'parais.
Mes amis, là, j'en pas fait boulot.
Non, pas j'parais.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nénon.
Non, pas j'parais.
Mais comment j'ai l'idée pensée.
Non, pas j'parais.
Non, pas j'parais.
Pour débuter cette émission consacrée au THV, on va parler du spectacle La Lune des Pauvres. C'est le 19 novembre et on est en ligne avec Virginie Fouchaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Maud, c'est toi qui as préparé cette interview.
Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Donc vous êtes comédienne et metteuse en scène, directrice du Théâtre d'Air, compagnie que vous avez fondée en 1998. Et très prochainement, donc le 19 novembre, vous venez présenter au THV votre toute dernière création, La Lune des Pauvres, de Jean-Pierre Siméon, qui est un auteur vivant, c'est important et assez chouette pour qu'on le signale, dans ce spectacle, vous en signez la mise en scène. Et vous y interprétez aussi l'unique rôle féminin. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots, vos mots, l'histoire de cette pièce?
L'histoire est très simple, c'est deux types qui font la manche, la route ensemble depuis des années, et qui rencontrent l'Espérance, qui est une femme qui débarque en fait, que l'un rencontre dans un café, une femme qui est irlandaise et qui est assez énigmatique, et les deux types vont tomber amoureux d'elle, et ça va déséquilibrer le couple qu'ils formaient. Voilà, donc c'est en gros c'est ça. J'en doute pas plus parce que
après sinon on en dit trop. Ce qu'on peut dire quand même, en tout cas moi, c'est ce que j'ai compris en lisant les dossiers et tout ça, c'est que c'est quand même une pièce sombre, une histoire grave, voire pas très gaie. Et même si vous avez parlé d'espérance, c'en est relativement dénué. L'amour survient, mais il n'y a pas vraiment de happy end. Jean-Pierre Siméon, lui, il définit cette pièce comme une tragédie baroque.
Oui.
Et il y a quand même aussi des liens avec la tragédie antique, effectivement, puisqu'il y a un cœur qui est là, qui voit, qui commente. Et souvent, quand on dit tragédie antique, on pense au destin, à ce poids du fatum qui pèse sur les gens. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce qui, comme ça, quand j'en parle, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette thématique?
Oui, mais parce que d'une certaine manière, on va dire que notre destin, si on parle de destin, voilà, on va tous mourir, mais avant de mourir, il va falloir vivre, et que ça parle de ça, c'est-à-dire que même si le réel est difficile, ce qui leur permet de tenir, c'est alors c'est soit le rêve, c'est-à-dire on se pose d'ailleurs la question à certains moments, est-ce que cette femme est bien réelle ou pas. En tous les cas, c'est l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si un amour peut finir mal, s'il a eu lieu, c'est déjà pas mal, et que vivre, c'est ça. Et alors, d'un autre côté, dans l'écriture même. Alors, effectivement, une structure classique hein, de la tragédie avec le cœur, que la fin n'est pas... D'ailleurs, la fin est plus ouverte qu'on ne pense, finalement, mais on retourne au réel, on va dire, voilà, à la fin. Mais le côté baroque amène la vie et le côté aussi dans l'écriture où... ni les personnages ni l'auteur ne se prennent au sérieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grandes envolées lyriques, poétiques, et très très belle d'ailleurs. Et toc, on revient, il y a une petite phrase qui à la fin de cette envolée ramène au concret des choses et amène de l'humour en fait. C'est-à-dire que c'était chouette d'ailleurs, de là on a fait les premières à Laval jeudi et vendredi, et ça a fait un bien fou d'entendre les gens rire dans la salle. C'est-à-dire, je pense que le spectateur passe d'un état et d'une émotion à une autre, quoi.
Et justement, vous parliez des mots et de la langue, et je crois que c'est justement une langue qui vous touche particulièrement, les mots de Jean-Pierre Siméon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette langue et qu'est-ce qui vous y plaît à la fois dans la lecture et peut-être dans le travail au plateau?
Alors, il y a deux choses, moi, qui me touchent beaucoup dans la langue. C'est une langue poétique sans être, édulcorée. C'est la poésie de l'intime, la poésie organique des choses. Voilà, et moi, j'y suis très sensible. Donc, c'est une langue qui ouvre tout le temps, qui nous fait voyager, c'est-à-dire qu'elle a... Voilà, elle ouvre les images, elle ouvre les sens, les odeurs, etc. Et à la fois, il y a une langue théâtrale très très concrète, une langue de plateau, c'est-à-dire que quand on est comédien, qu'on a cette partition à jouer, et je parle de partition parce qu'il y a quelque chose de musical, c'est très vivant, c'est une langue poétique et vivante à la fois. Voilà.
Et alors, il y a des parfois, peut-être sans doute aussi à cause des deux personnages sur le plateau, on fait le lien avec En attendant Godot de Beckett. Oui. Est-ce que oui. Vous êtes d'accord avec ce rapprochement?
Ah oui, bon. Oui, mais je suis d'accord même de façon, même dans dans l'univers aussi. Il y a une phrase de Beckett qui dit, c'est peut-être pas la phrase précise, mais qui dit que quand on est les deux pieds dans la mer, il n'y a plus qu'à chanter. Et je trouve que c'est assez...
c'est assez parlant de ce qui se passe.
Assez parlant.
Et alors, vous parliez d'ambiance, justement, et dans la distribution, on peut lire création vidéo et création sonore. Ça veut dire que j'imagine qu'il y a de la vidéo et du son.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont leur rôle, leur place dans le spectacle? Comment vous avez travaillé tout ça?
Alors, ça permet de... En fait, la scénographie, c'est une espèce de demi-lune, comme ça, donc où les personnages sont sur un sol qui n'est pas un sol réel, qui est un sol aussi déstabilisant. On n'a jamais les deux pieds vraiment... on n'est pas planté, c'est-à-dire qu'on a toujours une jambe un peu plus haute que l'autre, on est un petit peu toujours en déséquilibre, donc il y avait ce rapport-là. Et puis, du coup, il fallait... moi, j'avais envie... Ce texte, il fait voyager et visuellement et au niveau sonore, etc. Et j'avais envie, non pas d'illustrer ce qui était dit, ça n'avait aucun intérêt, mais par contre de zoomer à certains endroits, c'est-à-dire que dans la description que fait le cœur d'un espace, et d'un coup, et avec la vidéo ou avec le son, on zoome sur un détail ou voilà. Et du coup, ça permet de passer de...
Virginie, on ne vous entend plus pour le moment.
Et y a à un moment donné, un spectateur qui a dit, je trouvais très beau, la définissait nos présences sur le plateau, il disait, c'est incroyable, c'est très mobile dans l'immobilité, en fait. Donc, en fait, les situations sont très simples, les espaces sont très simples, les silhouettes aussi, et c'est assez épuré, et il y a quelque chose de, je crois, d'assez poétique aussi dans le visuellement, quoi.
Et alors, du coup, je l'ai dit au début, donc là vous parlez de la mise en scène, mais vous jouez aussi en même temps.
Comment
ça se passe dans le travail, peut-être les difficultés ou même les facilités, j'ai lu que vous aviez une doublure quand vous étiez mais comment ça se passe, vous? Comment ça se... Voilà.
Alors, plus qu'une doublure, en fait. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai pu le faire parce que j'ai une grande complicité avec Valérie Berthelot, qui, elle aussi, metteur en scène et comédienne, de la compagnie Arvigote, et que du coup, chaque fois que j'étais sur le plateau, j'avais hyper confiance en ses retours, et qu'on a beaucoup, beaucoup aussi préparé. Elle connaît bien aussi, elle me connaît bien, on se connaît bien, du coup, ça a pu, on a pu construire la mise en scène assez vite, assez tôt, pour que je puisse, moi, être aussi sur le plateau. Donc, c'était une façon de travailler assez différente de d'habitude, parce que, voilà, j'avais jamais fait ça. Et puis, les comédiens aussi me connaissent bien. Donc, moi, mes doutes de comédienne, j'essayais de ne pas les partager avec eux et de garder d'être solide au moins sur un des... C'est-à-dire que quand j'étais en doute de mise en scène, il y avait la comédienne qui arrivait à reprendre le dessus, et inversement. Donc j'ai dû faire moi des va-et-vient, et puis à un moment donné, bah, les doutes s'apaisent, et puis voilà, non, ça s'est plutôt bien passé. On en parlait justement il y a deux minutes avec un des comédiens, et pour eux aussi, je lui ai posé la question, pour ça n'avait été trop compliqué, que j'ai les deux casquettes. Bon, après, ça a demandé beaucoup de... moi, ça m'a grandi, en fait, quoi. Ça m'a obligée à tenir tout le temps, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et vous n'êtes pas devenue schizophrène?
Je ne crois pas.
Et alors, on l'a dit, Jean-Pierre Siméon, il est vivant. Est-ce qu'il a vu votre travail? Est-ce que vous l'avez consulté pendant la création? Est-ce que...
Non, pas du tout. On ne l'a pas consulté du tout. Je ne voulais pas le voir, l'écouter, etc. Je voulais l'oublier tout à fait. Parce qu'en plus, je savais qu'il venait à la première. Et quand même, j'avais eu vent que justement les questions vidéo, tout comme ça, c'est quand même pas quelqu'un de très... comment dire, il est assez frileux. Enfin, je pense que c'est quelqu'un d'assez frileux sur...
D'accord, il n'est pas ultra connecté, peut-être. On pourrait dire ça comme ça.
Peut-être. Mais toujours, et là, ça a été... Mais on est hyper fiers parce qu'il a été extrêmement, je crois, touché par le travail. Et il nous a fait des retours vraiment super. Voilà, et en disant justement, lui, la vidéo, l'utilisation de la vidéo, tout ça, il trouvait que ça, parfois c'était débordant dans les spectacles. Et or là, tout était juste, sensible, voilà. Enfin, donc, dans des super retours. Je sais pas si je suis devenue schizophrène, mais en tous les cas, là, j'ai eu un moment où les chevilles ont pris le triple volume, mais ça commence à redégonfler.
Donc, effectivement, puisque vous le disiez, la création est très récente et vous venez de jouer les premières tout récemment au théâtre de Laval, je crois. Donc, d'après ce que vous dites, ça s'est bien passé et vous êtes plutôt content.
Oui, ça s'est bien passé. Et puis, il y a alors en dehors des retours de Jean-Pierre Siméon, ce qui était bien aussi, c'était d'entendre les ados. Parce qu'à chaque fois, on nous demande à partir de quel âge ça avait vu. Donc là, les plus jeunes étaient en troisième, donc des troisièmes bien préparés. Hein. Mais, et puis, on a vu quelques lycéens, etc. Et moi, j'étais un peu inquiète quand même sur savoir si ça allait les intéresser. Et les retours sont... Moi, c'est très, très sensible et tout ça. Donc, je suis contente. On est content de ça aussi.
Mais il y aura aussi des lycéens dans la salle au THV. Donc, merci Virginie. On se retrouve donc le mardi 19 novembre au THV à 20h30 pour ce spectacle qui s'appelle La Lune des Pauvres de Jean-Pierre Siméon. Merci beaucoup.
Merci.
C'était une belle journée pour un automne. La lumière avait la douceur de la Madone. Attablée à l'autre café, Marianne doute. Elle me dit que le monde entier est en déroute. J'aurais voulu te consoler, te dire de ne pas te laisser aller quand tes grands yeux se se sont voilées de charbon et de larmes salées. Trouver les illusions et les intonations qui apaisent. Loin des superstitions qui reviennent chaque vendredi 13. Et puis nous nous sommes quittés dans un soupir d'amitié qui depuis toujours nous fait sourire. L'après-midi a déroulé des heures douces devant les terrasses bondées de bières rousses. Alors Paris s'est enflammé, attaqué par les loups égarés. Quand le chaos s'est invité et que la foule s'est mise à crier, toutes nos illusions perdues en quelques secondes à peine, consumés par le feu et les larmes des hommes qui saignent. Une douleur que rien n'efface, qui nous mutile. Le sang des innocents, les traces indélébiles. C'était une belle journée pour un automne où Marianne s'est mise à pleurer comme Madone.
C'était Alexis HK avec le titre Marianne dans l'oreille curieuse sur Radio G. On est toujours ce soir avec le THV, le théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et maintenant, on va parler d'un spectacle qui est en cours de création, je crois. Outre Noir, ce sera le 18 octobre à 20h30. Et Amélie, c'est toi qui as préparé cette interview. Nous sommes en ligne avec François Vérune. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Oui, merci, ça va, ça va. Ben, quelques encablures de la première.
Hein. Bah oui, hein. C'est là, c'est jeudi.
Alors voilà, on est en plein dans l'intensité de la finalisation du spectacle. Donc c'est toujours un moment intense et puis quelque peu stressant, on va dire ça comme ça.
Bon, on est avec vous en tout cas.
Oui, merci, je le prends.
Donc nous, François, on va parler justement de cette nouvelle pièce. Hein. Après oui. Nous avoir éblouis donc avec ta trilogie consacrée aux figures de la mythologie, et ben on a l'immense joie de découvrir prochainement ta nouvelle création qui sera d'ailleurs le premier volet d'une autre trilogie.
Oui, c'est ça. Humain, trop humain.
Voilà, et ben voilà, et donc ça fait référence à de nouveau l'humain parce que l'ancienne elle s'appelait
une trilogie humaine.
Ouais, c'est ça.
Donc oui, bah, finalement, grosso modo, ouais, depuis une trentaine d'années hein, que le travail se déplie au sein de la compagnie, effectivement, les choses convergent vers l'humain, toujours vers plus d'essayer d'approcher un petit peu une sorte de, enfin, le mystère, en fait, de ce qui sont les forces de vie qui sous-tendent nos actes, à la fois dans la vie toute simple, dans n'importe quel compartiment de la vie, au fond. Et là, pour le coup, ça converge vers, je dirais, davantage sur la question de la responsabilité. Responsabilité pas au sens moral du terme, mais plutôt dans son sens étymologique, pris comme répondre à, être en capacité de répondre à. Et répondre à quoi ? L'idée, c'est de révéler l'être toujours au plus près de son ou de notre libre arbitre, c'est-à-dire faire des choix et de les assumer. Et là, pour le coup, c'est de la danse, donc ça veut dire que le référentiel, ça va être le champ gravitaire. Donc, je continue à tirer le fil hein, des piliers depuis une dizaine d'années. Hein, c'est-à-dire, le champ gravitaire permet d'exposer les danseurs dans un défi gravitaire et de trouver des solutions toujours créatives pour assumer en fait cette prise de risque dans le champ gravitaire, prise de risque dans le transfert du poids pour pas s'écraser, mais au contraire contrevenir au champ gravitaire. Donc il y a une dialectique permanente entre finalement l'ancrage et la suspension, entre la personne et le collectif, donc le jeu, le nous. Et là, avec une installation plastique vidéo, on touche aussi plus largement au nous tous, c'est-à-dire ce qui est plus grand que nous. Donc une articulation entre le jeu, le nous tous, et l'engagement de chacun qui se conjugue avec l'engagement du groupe.
Waouh.
Non, mais ça fait un télo, mais c'est grosso modo, c'est très très concret en fait. Hein. Mettre des mots, finalement, là, en quatre phrases, ça synthétise quand même l'endroit où se situent les enjeux. Hein.
Mais elle se voit en fait, ouais, dans ta pièce, de toute façon, on voit tout ça quand tu parles de gravité, les corps qui, les portées et tout ça que les danseurs et danseuses font entre eux. Et cette grâce aussi en fait, elle est incroyable cette danse en fait, ce travail du mouvement qui où on sent une légèreté dans les corps et en même temps voilà on s'imagine que bah il pèse pas non plus le poids d'une plume et c'est
non mais c'est évidemment pas de s'affranchir du poids, bien au contraire. Mais je pense que ça a à voir avec ça, la question de la responsabilité, c'est faire avec et pas jouer contre.
Mm-mm.
Donc grosso modo, ça pourrait se traduire autrement par une forme de combat, mais sans ennemi en fait. Il n'y a pas de rapport de force.
C'est ça.
Entre les protagonistes,
ils se soutiennent et ils s'accompagnent dans.
Oui, voilà, mais ça commence par. J'insiste en fait sur la question du jeu. En fait, ça commence par soi-même en fait. Je crois que c'est Spinoza qui dit que toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'y a pas une dimension morale. C'est juste qu'à un moment donné, le fait de se prendre en charge déjà soi-même, ça permet en fait de prendre sa responsabilité pour soi-même et pour le groupe. Finalement, on porte, on fraternalise. Il y a une fraternité dans les enjeux en fait. C'est-à-dire que c'est pas le jeu dans le sens égotique du terme où chacun finalement chacun son problème et puis advienne que pourra. C'est que finalement ce qu'on vit dedans à l'intérieur de nous s'exprime aussi à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur s'exprime à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a là encore un aller-retour incessant entre le jeu et le nous, et le nous tous. Parce qu'en fait, finalement, le chaos du monde qu'on traverse, finalement, c'est chacun d'entre nous qui y contribue. Quoi. Donc c'est peut-être un peu simpliste, mais en s'appelant déjà à prendre sa propre responsabilité pour soi-même, et en respect avec finalement avec tout ce qui nous entoure, ben voilà, sans être trop naïf, en assumant déjà, on peut faire un petit peu pour soi-même, et donc après ben les choses évoluent autour de nous. Donc c'est plutôt une sorte de manifeste, si ce n'est politique ou philosophique, voire politique au fond, parce que c'est juste de la danse, mais les sous-bassements qui façonnent cette écriture pose une question existentielle. Hein. Sartre parle qu'effectivement l'existence précède l'essence, c'est qu'effectivement en occupant, peut-être que ça peut mieux se passer, quoi. Et en plus parce que ça se conjugue avec l'intelligence collective.
Et pour ce fait... pardon.
Non non.
Je t'en prie. Vas-y.
Non non, c'est ça. C'est là qu'en fait. Tout ce travail est aussi une synergie d'une intelligence collective. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas tout seul. J'ai envie tout de suite de parler de Christelle Brink-Psygoda, avec qui je travaille depuis 30 ans, aujourd'hui qui est à mes côtés en tant qu'assistante et surtout dramaturge. où on interpelle en permanence ces questions de sens. De quel sens il s'agit? Ben, c'est un sens qui n'est pas discursif, on fait pas de démonstration, mais c'est un sens d'un récit sensible qui se déplie. C'est pas il était une fois une histoire qui se raconte, mais ce sont des enjeux, des actes qui sont posés et que chacun d'entre eux, à n'importe quelle échelle qu'on prend, à l'échelle du mouvement ou à l'échelle d'une situation chorégraphique, c'est-à-dire d'un tableau, on pourrait dire, ou à l'aune de l'ensemble de la pièce, les enjeux sont les mêmes. Et que ce travail collectif permet d'avoir une acuité supplémentaire pour déjouer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, pour avoir finalement différents éclairages qui permettent finalement d'être au service du sens, au service du sujet, parce qu'en fait il y a une vision partagée. Donc la vision partagée, ben, c'est celle que j'ai posée au départ, hein, l'humain trop humain ou une trilogie humaine, c'est-à-dire que la place de l'être au cœur de la planète, sur la Terre, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais que ça soit finalement dans la conceptualisation de la chose, dans son écriture dramaturgique, dans son écriture chorégraphique, dans l'écriture du mouvement. Donc à n'importe quelle échelle que l'on peut regarder, finalement, le travail se mettre en œuvre, il recouvre de la même, des mêmes enjeux, en fait. Et puis de même, ben, Philippe Virin qui est plasticien, là, avec donc la scénon qu'il a faite, et notamment cette installation plastique vidéo, ça ouvre encore et davantage vers du particulier au plus large. Donc pour nous, avec cet élément vidéo, ben, ça amène un élément de complexité supplémentaire dans l'écriture. Et des choses qu'on pouvait se permettre par le passé, on ne peut plus se permettre dans l'écriture. Si je fais référence pour ceux qui ont vu les précédents opus, eh ben, y a plus possibilité de passer par des noirs, par exemple. Hein, et donc on est obligé de trouver d'autres solutions pour que l'écriture tienne, quoi.
Justement, donc tu parles de vidéos dans cette installation plastique et tout ça. Moi, je reviens quand même sur le thème de cette pièce aussi, qui fait référence donc au peintre Pierre Soulages, et dont tu as donné le titre Outre-Noir quand même. On peut peut-être en parler de ça.
Oui, tout à fait.
Parler de cet artiste, hein, justement, et qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait?
Alors là, purement, outre le fait que je suis, comment dirais-je, très très sensible au travail de Pierre Soulages. Là, pour le coup, c'est outre sa vision de l'art, et puis après ce qui déplie comme travail, ben il va avoir 100 ans cette année, hein, donc c'est un moment qui s'en occupe. Outre-noir, c'est quand même le fait que la lumière émerge du noir. En fait, hein. Outre-noir, c'est sa peinture noire qu'il a mis en chantier, où la lumière, paradoxalement, émerge du noir. Quand ses parents lui demandaient « Mais pourquoi, qu'est-ce que tu es en train de peindre ?» Là, il était tout gamin, il dit « Ben, je peins de la neige », alors qu'il était avec de l'encre de Chine noire. Et en fait, c'est ça qui est aussi magnifique, c'est ce paradoxe de faire émerger la lumière du noir. Et moi, la métaphore est excellente en regard de comment je peux la transposer à l'intérieur de l'être humain, quoi. C'est-à-dire, ben, mettre de la lumière dans nos zones obscures, nos points aveugles. Donc c'est une magnifique métaphore au service de l'être, de son émancipation.
Et justement, comment on parvient chorégraphiquement à faire jaillir la lumière de l'obscurité au travers de la danse et au travers de au-delà de la scénographie, parce que je suppose qu'il y a la lumière joue un très grand rôle là-dedans, et dont également la vidéo, comme t'en parlais. Et mais voilà, comment on arrive en fait à faire émerger la lumière de l'obscurité à travers le corps?
Ben c'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Peut-être qu'on aurait effectivement dû commencer par là. C'est que pour moi, oser, prétendre, c'est un peu prétentieux de dire la question de l'être, la question du libre arbitre, on va s'en occuper. Pour le coup, quand j'explique tout de suite que finalement il s'agit d'un défi gravitaire permanent, et ça demande que chacun des danseurs s'en occupe profondément. C'est-à-dire qu'en fait, ne rien lâcher, parce que c'est une danse qui ne lâche rien, en fait. Hein. Si le spectateur lui voit de la légèreté, tant mieux, pour pouvoir faire émerger finalement cette poésie, c'est vraiment ne rien lâcher au niveau de ces défis gravitaires. Et donc, ça demande de dépasser nos propres limites, parce qu'effectivement, produire de l'espace en prenant appui, entre guillemets, sur l'air, en prenant appui sur l'espace extérieur, c'est-à-dire ça demande un ancrage énorme et de oser produire de l'espace sans que le poids retombe. Et donc, cette dialectique entre l'ancrage et la suspension, ça demande d'aller puiser des ressources à l'intérieur qui font forcément aller visiter nos zones où on va se trouver en difficulté. Donc l'idée, c'est pas faire une apologie de la souffrance pour pouvoir faire ça, c'est de traverser comme un funambuliste traverse sur son cil pour finalement conduire son propre poids dans l'espace autour, quoi. Et l'espace autour permet d'incarner encore et davantage un petit peu plus le danseur en tant que sujet par rapport à ses propres volumes, donc il sera encore plus présent dans son être et non dans le paraître. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de sincérité liée à une nécessité finalement physique. Donc c'est là en sens là que c'est très concret et que pour ça, évidemment, il s'agit d'aller traverser ces difficultés, donc une certaine forme de courage à convoquer pour traverser, pour arriver à ne pas abdiquer. D'où la question du combat sans ennemi, en fait. C'est-à-dire que c'est envers soi-même ce combat qui existe. Et pour finalement faire fleurir, en fait, les enjeux chorégraphiques à partir de quelque chose qui est difficile.
Eh bien, merci beaucoup, François. Et en tout cas, on vous dit... merde, si je peux me permettre, pour jeudi.
Ah, mais n'hésite pas, hein, je l'apprends. Et
puis on se dit rendez-vous.
De ce pas répéter, et on se voit la semaine prochaine.
Voilà, dans 8 jours, avec grand plaisir.
Ouais. Et ben avec joie. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très vite, ouais. Au revoir.
Je redonne toutes les dates de Outre-Noir dont on a parlé. Ce sera le 18 octobre à 20h30 au THV, bien sûr. Et c'est la compagnie 47.49. Voilà. Et avant de conclure cette émission, on va écouter Flavia Coelho Paraíso. Elle sera en concert le 11 janvier, toujours au THV.
O sono fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso, mãinha tá no paraíso. O sono fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso. Meu confessionário de lágrimas, lugar comum. É tanto que se recebe. Recebi e dei demais. Viajei intergaláctica no tempo. O sono fugiu de mim. Paiinho, vem cá, menina. Narciso que ama a si mesmo e detesta ou não. A tinta da cara.
quelques minutes pour conclure cette émission de l'oreille curieuse consacrée au THV. Maud, Amélie, outre les spectacles, il y a d'autres
choses.
On
a une programmation de stage qui n'est pas piquée des verres.
Si jamais vous avez envie de...
Mais non, mais c'est vrai, elle est chouette cette programmation. Voilà, elle est géniale. Si non seulement les spectacles sont top, mais en plus on vous propose de vous essayer à différentes choses, et notamment à la danse et à la photo. Mélanger les deux, Amélie.
Ouais, c'est des trucs de ouf cette année. Je trouve qu'il y a des stages qui sont complètement inédits.
Ouais, on vous en parlera au fur et à mesure des émissions. Vous aurez trop envie de faire des stages au THV.
On fait de la danse à la piscine. Et là, on fait danser photo. Alors là, tu fais de la danse, tu fais de la photo. Tu fais un des deux.
Tu es refait.
C'est pour toi.
Ouais.
Non, mais donc voilà, on accueille Aïla Labbé et Stéphane Tass qui proposent en fait une rencontre justement entre ces deux disciplines. Et comment en fait on... Le corps en mouvement va pouvoir évoluer aussi avec ce regard de photographe que nous avons, nous, spectateurs. Et comment le photographe, lui, justement, va pouvoir, au travers de son regard, justement, photographier ce mouvement-là. Et comment il va être présent à l'intérieur de
et le mettre en scène, c'est pas juste prendre en photo un instant, c'est mais ça. Aussi le magnifier, et pas juste être un journaliste, mais effectivement un photographe, un artiste, quoi.
Ouais. Et franchement, je pense que c'est un stage qui est inédit.
Ouais, qui est inédit. Et Stéphane, il est photographe et Ayla est danseuse, mais elle-même, elle est aussi photographe et plasticienne. Et l'idée, c'est pas que les danseurs, que les photographes se mettent à danser, et que mais que bien les deux se mêlent, et qu'après, si on a envie d'expérimenter les deux, il n'y a pas besoin d'être un grand de l'un et de l'autre. Il suffit juste d'avoir même un smartphone, en fait, pour faire des photos. Voilà, c'est apprivoiser son regard et les corps.
Ouvert à tout le monde.
Ouvert à tous. À partir de 15 ans, je crois. Ouais, 15 ans. Parce que, voilà, mais sinon, c'est vraiment ouvert à tous.
Et c'est 16 et 17 novembre au THV.
Au THV.
Toute la journée.
Les deux journées. 10h
à 17h. Ouais.
Trop bien. On réserve dès maintenant, quoi.
Ouais.
D'autres stages.
On en parlera plus tard. Ouais. Non, on déroulera la programmation des stages.
Ouais.
Tu veux déjà dévoiler tout? Bah, sinon, tout est en ligne. Hein, si vous avez. Mais,
non, c'est vrai.
On peut dire effectivement danse et photo, lutterie sauvage, atelier de collecte de gestes collectifs ou d'histoire de bagarre, lecture théâtrale, enfin il y a de quoi s'amuser cette année.
Ouais, ça va être chouette. Bon, eh bien, merci.
Merci Annie.
Nous oublions un élément important. On se retrouve le mois prochain. On sera le 12 novembre, je crois.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup. L'oreille curieuse, c'est terminé pour ce soir. Si vous avez un doute, une question ou envie d'en savoir plus sur la programmation du THV, rendez-vous sur thv.fr. Nous, dans cette émission, on se retrouve demain à partir de 18h10 et nous serons avec Victor Deuil, l'auteur du livre « Merci maman d'avoir fait de moi un loser ». Il y aura aussi Jules et sa chronique « Carte blanche » où Jules va discuter avec le monde entier. Tout de suite, à 19h, vous retrouvez Funkadelica sur le 101.5 de Radio G. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Radio G 101.5 FM.